On a Joanne Bourlard, Anne-Marie Delcambre et le père Samuel qui sont avec nous. Bonjour à vous trois. Bonjour vous trois.
Bonjour Ismaël.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Ismaël, ici le père Samuel.
Bonjour père Samuel, comment allez-vous aujourd'hui?
Merci, merci à tous.
Quelle est la température à Bruxelles en ce moment?
Oh, moyenne, on va dire.
Moyenne, je pense que c'est gris ici pour nous aussi.
C'est gris chez nous aussi.
Ah, c'est bon, alors...
Mais chez nous, le soleil brille. Dans la pièce où on se trouve, le soleil brille.
Ah, d'accord. Oui, dans la pièce. Hey, j'avais, juste avant que vous débutiez l'entretien, il y a un article que j'étais en train de lire. Et on est, Mme Delcambre et autant Joanne Bourlard, Père Samuel, on est à la recherche en Grande-Bretagne d'imams modérés qui sont bien sûr de certains imams intégristes, extrémistes. On est à la recherche d'imams modérés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est assez étrange du côté de la Grande-Bretagne qu'on agisse ainsi, vous ne trouvez pas?
Oui, enfin, en tout cas, moi je souhaite bonne chance à ceux qui vont faire les recherches. Parce que l'imam modéré, ce sera comme l'imam intégriste. Il prendra le même livre, le Coran, et il prendra le même exemple, le prophète Mahomet, comme base de tout son raisonnement. Donc, oui. Il sera difficile de trouver un imam modéré. Et donc, je souhaite bonne chance aux recruteurs.
Et peut-être de dire aussi que là, on parle d'ajouter 180 millions de dollars. Bien sûr, on parle en monnaie canadienne, mais là-bas, je ne sais pas combien que ça fait du côté de la Grande-Bretagne, 180 millions de dollars. C'est en sterling, est-ce que c'est ça?
Oui, c'est des livres sterling, mais je ne connais pas le taux de conversion.
Non, exactement. Mais c'est pas plus grave que ça, mais je ne crois pas que pour lutter... Moi ça me fait rire, Joanne, la fameuse lutte là, contre le terrorisme avec ces fameux millions qui sont là pour lutter contre le terrorisme un peu partout. Que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne ou encore aux États-Unis, je ne crois pas que ce soit avec des peanuts, hein, que quelques grains de sable, que ça risque de faire, de stopper le terrorisme qui sont faits presque exclusivement par des groupes musulmans, quoi.
Oui, parce que cet argent sert à créer des structures pour permettre à l'islam de s'installer en Europe. Mais comme on le sait, l'islam contient l'intégrisme dans ses textes, dans l'exemple de son prophète. Donc, si on finance l'installation de l'islam en Europe, on finance en même temps l'intégrisme que nos dirigeants souhaitent soi-disant combattre.
Je trouve ça complètement stupide comme idée d'un côté, on dit qu'on recherche des imams modérés, mais d'un autre côté, c'est comme une idée contraire. On recherche des imams modérés, on met de l'argent pour lutter contre le terrorisme. Il me semble que ça fonctionne pas dans les deux cas. Ce matin, vous voulez exactement, quels sont les points principaux que vous voulez attaquer?
Mais moi, je voudrais parler oui, vous m'entendez?
Madame Delcambre, oui, je vous entends bien. En plus, quel point vous voulez attaquer, Madame Delcambre?
Je vais vous attaquer, vous. Non,
vous allez m'attaquer, moi?
Je voulais vous parler du dialogue islamo-chrétien qui, oui. À la limite, pour certains, ça sert à rien de parler de ça, il n'y a que ces trous du cul intellectuels qui font ça, mais en réalité, c'est extrêmement important parce que si on ne parle pas du dialogue islamo-chrétien, on ne voit pas pourquoi, par exemple, deux prêtres catholiques sont stigmatisés, sont en quelque sorte punis, à cause de ça. Il y en a un qui s'appelle le père François Jourdan, à qui on ne peut rien reprocher. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas hurlé, par exemple, non, rien, absolument rien, sinon, dans un dialogue avec Raleb Benchir, c'est-à-dire un Algérien qui, sur France 2, intervient chaque dimanche, il a voulu voir quelles étaient les différences entre l'islam et le christianisme. Il a dit, on nous ment sur toute la ligne, on nous ment sur les mots, on nous ment sur le contenu. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a d'original dans ce que vous dites? Eh bien, je viens d'apprendre que le père François Jourdan, qui est docteur en théologie, docteur en histoire des religions, docteur en anthropologie religieuse, C'est un prêtre eudiste, un professeur qui était dans le diocèse de Paris et spécialiste des relations avec l'islam depuis 1998. Il est envoyé aux Philippines à l'âge de 60 ans pour 6 ans dans un endroit le plus dangereux possible. Il y a un groupe terroriste, c'est les gens de Abu Sayyaf, et qui égorge les religieuses et les prêtres. Autrement dit, pour avoir parlé d'une manière qui n'a pas plu aux dialogueux, aux spécialistes du dialogue islamo-chrétien, il est banni, il est puni, il est chassé. Il est chassé de France, de Paris, et nommé par ses supérieurs hiérarchiques, les nazillons, les connards de première, il est envoyé là-bas, aux Philippines. Et c'est la même chose pour le père Samuel, pour avoir dit ce qu'il pensait, lui, en tant que prêtre catholique, eh bien, dans 15 jours, il a un procès, il est traîné devant les tribunaux, et il va devoir paraître comme un condamné. Pourquoi pas aussi lui mettre des boulets aux pieds ? Je dis le dialogue islamo-chrétien est dangereux. Je dis oui, il est dangereux dans la mesure où vous fermez vos gueules et vous dites tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, le musulman n'est pas différent du catholique, le catholique n'est pas différent du protestant, etc. Ou alors vous dites un tout petit peu la vérité et là, eh ben alors là vous recevez sur les panards. Là vous savez ce que ça coûte. L'un, il a tout perdu et l'autre, il est traîné comme un criminel. Alors, c'est ça dont on va débattre. Le dialogue islamo-chrétien, en vérité, c'est explosif. On est condamné à je ne sais quoi. Allez-y, monsieur Bourlard, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, donc, en fait, le père Samuel est traîné devant les tribunaux belges par un centre qui s'appelle le Centre pour l'égalité des chances et qui, pour masquer le fait que l'islam ne peut pas être critiqué, attaque le père sur le côté racial des choses. En fait, ils critiquent le père, ils attaquent le père en disant « Oui, mais vos propos, en fait, ne visent pas à attaquer l'islam, ils visent à attaquer les Arabes. » Or, ce n'est pas le cas, le père ne cherche pas à attaquer les Arabes, il cherche à montrer certaines vérités qui dérangent au sujet de l'islam. N'est-ce pas, mon père ?
Oui, j'ai écrit ce livre, ça s'appelle « Les versets angéliques ». C'est-à-dire les versets violents, meurtriers qui existent dans le Coran, pour que les Européens sachent que le Coran n'est pas l'évangile, que Jésus-Christ n'est pas Mahomet, que Mahomet n'est pas Jésus-Christ. Et beaucoup d'Européens m'ont demandé d'écrire ce livre pour que nous sachions qu'est-ce que c'est l'islam, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est le Coran, pourquoi la haine des musulmans contre les non-musulmans, pourquoi la haine de Mahomet contre tout ce qui est incrédule. Alors j'ai voulu montrer aux Européens, non seulement aux Européens, mais à l'islam, ce livre doit être un livre qui éclaire non seulement les musulmans, même les Européens.
Alors ce livre dont parle le père Samuel est donc intitulé « Les versets angéliques » et c'est un livre que le père Samuel a publié en 1996. Il y a donc 12 ans. Lors de sa parution, il n'avait fait aucun bruit. Le père Samuel l'avait distribué auprès de ses fidèles. Et voilà que tout d'un coup, 6 ans après sa parution, en 2002, ce livre a fait l'objet d'une plainte émanant du Centre pour l'égalité des chances. Alors, on se demande pourquoi ce livre a été comme ça attaqué si tard, alors que quand on lit le livre... Il se compose d'une partie consacrée au Coran, d'une autre partie consacrée à la tradition islamique, c'est-à-dire qu'il reprend les principaux faits et gestes de Mahomet. Mais dans ce livre, on remarque également qu'il y a une importante partie consacrée aux prières du rituel catholique, puisque bon, le père Samuel étant prêtre catholique, et comme il distribue ce livre auprès de ses fidèles, bon, ben, il insère quelques prières catholiques dans son ouvrage. Mais il y a également une préface qui est tout à fait belle et qui comprend des principes humanistes. Dans la préface, par exemple, le père cite l'article 1er des droits de l'homme, « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Le père a fait sienne notamment la parole de Jean Cocteau, l'écrivain français, qui dit « Je ne hais que la haine ». En fait, ce que le père fait dans son livre, c'est dénoncer la haine que l'islam entretient envers tous ceux qui ne partagent pas les convictions des musulmans. Et pour dénoncer cette haine, il faut la montrer. Et ça, la montrer, ça pose problème à certains, dont le Centre pour l'égalité des chances, qui, pour cette raison, traîne le père devant les tribunaux.
Joanne, je m'excuse, père Samuel, et Anne-Marie Lecarme, excusez-moi, je vais vous dire une expression québécoise, je ne veux pas paraître un chien dans un jeu de criquet, c'est-à-dire parce que vous aviez déjà un itinéraire de proposer sur le LibertyVox pour aujourd'hui, mais j'ai quelques questions de la part d'auditeurs. Est-ce que vous me permettez?
Oui, certainement.
Alors, pour commencer par vous, Père Samuel, Sébastien nous écrit ceci. « Mon père, j'ai une simple question théologique à vous poser sur la nature même de la révélation plus exacte de l'islam par le prophète Mohammed. Vous savez mieux que moi, dit-il, que l'ange déchu, une fois retrouvé en damnation avec ses légions d'anges, a juré de détruire toutes les créations de notre Seigneur sur cette terre et de détruire la croix, que ses moyens sont la traîtrise, la fourberie, le mensonge et surtout la manipulation et bien pire encore. Ces questions sont simples, il y en a deux, Père Samuel, je vous pose la première. Ne pensez-vous pas que l'archange Gabriel, descendu du ciel pour prêcher la nouvelle parole de Dieu à Mohammed, a été-t-il pas plutôt un serviteur de l'ange déchu, déguisé en Gabriel?
C'est absurde de la part de Dieu, des chrétiens, qu'il est écrit dans le Saint-Évangile, Saint Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que le monde soit sauvé par le Christ. » C'est absurde de la part de Dieu, des chrétiens, c'est ridicule de sa part, après six siècles qu'il va envoyer un certain Mahomet, chef de guerre, guerrier lui-même, un tueur à gages. Nous n'acceptons jamais la révélation faite à Mahomet, soi-disant par l'ange ou tel ange Jibril. C'est absolument faux. Mahomet, c'est un faux prophète, absolument, dès le commencement. On ne peut jamais accepter Mahomet comme prophète.
Alors, d'accord. Concernant la personnalité de l'ange Gabriel dans l'islam,
oui.
Il y a en fait une tradition familiale chez les chrétiens orientaux qui parle d'un contexte très particulier de la révélation du Coran. En fait, pour les chrétiens orientaux, c'est clair, le Coran n'a pas été communiqué à Mahomet par l'ange Gabriel, n'est-ce pas mon père?
Dans la tradition familiale ancestrale orientale, eh bien, tout le monde dit le Coran a été écrit par un moine s'appelle Bahira. Bahira, un moine hérétique, s'appelle Bahira. Après avoir écrit pendant plusieurs années, révélé à Mahomet certaines choses pendant 20 ans, 22 ans, après Mahomet a assassiné le moine, et c'est pour cela qu'il n'y a personne qui sait qui a écrit le Coran.
Père Samuel, seconde question, puisque pour vous, Père Samuel, toujours, je vais en avoir aussi pour Anne-Marie Delcambre et je vais en avoir aussi pour Joanne Bourlard. Puisque l'islam est à l'opposé du Christ, Père Samuel, puisque l'islam est à l'opposé du Christ, ne serait-il pas l'antichrist attendu dans le jugement dernier, pardon?
C'est totalement l'islam, c'est l'antichrist, c'est la négation totale du christianisme. Si nous croyons à l'islam, à Mahomet et au Coran, le christianisme ne peut pas exister. Eh bien oui, c'est antichrist, c'est la négation du christianisme totalement et absolument.
Et c'est bien pour cette raison qu'on trouve complètement absurde de voir à quoi tourne le dialogue islamo-chrétien. On s'échange des politesses, on se dit, mais oui, finalement, nous avons tous le même Dieu. Ben oui, c'est bien, finalement, dans le Coran, on parle de Jésus, on parle d'Abraham. Or, le Jésus, l'Abraham, tous les personnages bibliques évoqués dans le Coran n'ont rien à voir avec les personnages de la Bible, effectivement. Et donc, c'est, comme le Père vient de vous le dire, l'islam nie les vérités fondamentales du christianisme. Et donc, dialoguer entre musulmans et chrétiens sur la religion, c'est qu'il y a quelque chose là d'absurde et d'incohérent, parce que le dialogue sur le plan théologique, sur le plan religieux, est impossible, n'est-ce pas, Madame Delcambre?
C'est pas seulement qu'il est impossible, c'est qu'on ne dialogue pas sur les dogmes. Or, c'est fondamental, on ne parle pas de théologie. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Ben, on va manger un couscous ensemble, on prend un thé à la menthe, on se raconte, mon cher untel, mais on ne parle pas de ce qui nous sépare. Or, ce qui nous sépare, c'est explosif. C'est-à-dire que les mots ne recouvrent pas les mêmes réalités. Quand vous dites, par exemple, Abraham, eh bien, Abraham, c'est pas le même fils dont il est question. Je pose des questions au Père Samuel et vous allez voir que ça, Abraham, bon, chez les musulmans, quel est le fils aîné?
Eh bien, le fils qui a voulu sacrifier, c'est Isaac. Or, les musulmans disent, c'est Ismaël. C'est déjà, c'est du mensonge, donc. C'est du charlatanisme, absolument.
Ensuite, par exemple, quand on parle de Dieu, pour les musulmans, Dieu est un. On dit voilà, Dieu est un, monothéisme absolu. Si j'interroge le Père Samuel, pour vous, Dieu, est-ce qu'il est un ou est-ce que, par exemple, il est Père?
Eh bien, chez les chrétiens, nous disons notre Père qui est aux cieux. Chez les musulmans, on dit jamais Dieu n'est pas Père. Chez les chrétiens, Dieu est amour, tandis que chez l'islam, on dit non, Dieu c'est un dictateur. Donc, dans l'évangile, il est écrit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le, en qui j'ai mis tout mon amour. Le Dieu des musulmans dit, le Dieu des chrétiens n'a pas de fils. Eh bien, nous, Jésus n'est pas fils de Dieu, n'est pas mort, n'est pas crucifié, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas mort, crucifié, ressuscité, le christianisme n'a pas raison d'exister.
C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que pour, si on suit vraiment les musulmans, eh bien, les juifs et les chrétiens, ils n'ont ni origine, ni identité. Ils sont rien, puisque tout revient à l'islam. Au commencement était l'islam, à la fin était l'islam. Il n'y a de religion aux yeux de Dieu que l'islam. Alors, ben, on est des clodos, on est des gens sans tradition. Au fond, on a comme solution, si vraiment l'islam était tout à fait puissant, par exemple l'islam militant, ben, soit de payer des impôts, comme des gros teubés, là, comme des gros bêtes, ou alors de se convertir. Et ça commence une islamisation par certains très, très, très subtile, très lente, progressive, à savoir, premièrement, et nous avons commencé le premier stade, si on commence à discuter sur le fond, on vous dit, mais attendez, là, vous prêchez la haine, parlons de ce qui nous unit et non pas de ce qui nous sépare. Et je dis, bande d'enfoirés, c'est ce qui nous sépare qui pose problème, car sinon nous, alors là, le père Samuel a parlé de Dieu. Dieu, chez les catholiques, il a un fils.
Oui.
Il a un fils qui, apparaît-il, était crucifié, qui, d'abord qui s'est, bon, incarnation. Ensuite, il a été crucifié et il a racheté le monde, etc., etc. Vous parlez de ça à un musulman, il dit, oh, quelle horreur, quelle horreur. Alors, on ne parle pas de ça et on dit Dieu. Oh, nous avons tous le même Dieu, un seul Dieu pour trois religions, etc. Nous vivons dans le mensonge. Les mots ne signifient rien ou signifient des réalités différentes, mais on n'en dit rien. Oui. Et c'est contre ce mensonge qui vaut au père Jourdan d'être banni, au père Samuel d'être attaqué en justice, que je dis crions au scandale, mettons le contenu des religions sur la table.
Comme Madame Delcambre.
Oui.
À votre tour maintenant pour les questions. Madame Delcambre, on s'adresse directement à vous, bien sûr. Déjà, sachez que j'admire votre savoir avec un grand S. Je suis français, je vis à Paris et je vois mes rues, mon quartier, ma ville devenir chaque jour un peu moins occidentale. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me répondre simplement à cette question? Demain, l'islam sera majoritaire en France, Belgique, Pays-Bas, Danemark. Les démographes ont annoncé que dans 20 ans, l'islam aura triplé en Europe. Pensez-vous que la France changera de nom, que ses cathédrales seront converties en mosquées comme Sainte-Sophie?
Ben, c'est-à-dire que si on laisse l'islam militant, si on laisse l'islam devenir militant, c'est sûr que on y va droit. Parce que le but de l'islam, et c'est normal, c'est une religion prosélyte, c'est d'avancer. C'est une religion conquérante. Donc, si on ne met pas des points d'arrêt, eh bien, c'est sûr qu'on avancera. On dira, mais non. Ils ne se contenteront pas de prendre des petits gâteaux autour d'un thé à la menthe continuellement, comme le répète toujours le père Samuel. Et mine de rien, ce qu'il dit est profondément juste, puisque j'écoutais ce que disait le père François Jourdan, c'est la même chose, la théologie catholique. Il a dit, l'islam n'est pas pressé. Allah ma'a sabirin. Dieu est avec les patients. Les patients, c'est-à-dire ceux qui ont de la patience. Donc, c'est ça qui est grave. Oui, donc je réponds, l'auditeur a tout à fait raison. J'ai cru que c'était vous qui étiez devenu français, Ismaël. J'ai eu peur. Mais il a raison.
Non, c'est-à-dire non, qu'il
ne faut pas se cacher la réalité. Si on laisse les choses, demain, eh bien, Bruxelles, Paris, ben, ce seront des villes où il y aura plus de mosquées que d'églises. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr que les musulmans, qui sont normaux, je le répète toujours, ben, si on n'arrête pas, parce que parmi les musulmans, il y a des militants.
Et même s'il y en a très... Autre question, oui, Mme Delcambre. Si, toujours du même individu, si demain nos républiques européennes deviennent islamiques, pensez-vous que la charia sera respectée à la lettre et pire que dans d'autres pays musulmans, du fait qu'ils auront, les musulmans, conquis les anciennes terres des croisés.
Ben, c'est un scénario que moi j'espère ne voir jamais arriver. C'est un scénario qui serait, si on suit le colonel libyen, c'est sûr que c'est quelque chose qui, dans l'imaginaire musulman, n'est pas exclu. C'est pas du tout un hasard si, par exemple, quelqu'un va s'installer en Espagne, à Marbella. C'est-à-dire qu'ils se disent, toute terre qui a appartenu à l'islam reviendra à l'islam. N'est-ce pas, Monsieur Bourlard? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, exactement. D'ailleurs, on constate dans l'histoire, il y a eu de grands empires au cours de l'histoire. Et le seul empire qui ait subsisté au fil des siècles, c'est celui de l'islam. On remarque, par exemple, l'empire d'Alexandre le Grand a été immense. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Rien. L'empire de Gengis Khan a été immense. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Rien non plus. Mais l'empire de l'islam, lui, il reste, il subsiste. Du Maroc à l'Irak, ou même du Maroc à l'Indonésie, pour être plus large, oui. L'islam est resté. Et c'est pourquoi l'Espagne et la Sicile, qui ont autrefois été terres conquises par l'islam, sont des cibles prioritaires pour les musulmans. La Sicile et toute la péninsule balkanique sont des terres à reconquérir en priorité, ainsi que Rome, parce qu'il faut savoir que dès les premiers siècles de l'expansion musulmane, les musulmans ont conquis 4 des 5 grandes cités patriarcales chrétiennes. Il y avait Jérusalem, il y avait Antioche, il y avait Alexandrie, Constantinople et Rome. Jérusalem, Antioche et Alexandrie ont été conquises dans le siècle qui a suivi la naissance de l'islam. Constantinople est tombée en 1453. Maintenant, que reste-t-il? Il reste Rome. Rome, donc, également constitue une cible privilégiée pour les musulmans.
Et c'est d'autant plus vrai ce que dit Johann Bourlard que ce n'est pas un hasard si actuellement vous voyez auprès du pape Benoît XVI énormément d'intellectuels musulmans qui s'approchent, qui tentent un dialogue, discuter avec les gens du livre de belle manière, dit le Coran, la sourate les abeilles, la sourate l'araignée, Ankabout, mais pas en rester aux discussions. Avancer, grignoter, de façon à ce que, à la fin, eh bien, on arrive à piéger, parce que dans l'esprit des musulmans, et vraiment, c'est sans mauvaise, je pense qu'ils le sont persuadés de cela, la vraie religion aux yeux de Dieu, c'est l'islam. Donc, c'est sûr.
Maintenant, autour de M. Bourlard, écoutez, monsieur, j'apprécie votre savoir dans le domaine religieux, prénommé Sébastien. J'apprécie aussi votre savoir dans le domaine religieux. Deux simples questions pour vous. Bruxelles sera dans très peu de temps à majorité musulmane. Ceci va-t-il favoriser peut-être encore plus rapidement une charia européenne, Johann Bourlard?
Oui, on peut le craindre, puisque Bruxelles est non seulement la capitale de la Belgique, mais également capitale de l'Europe. Je vous rappelle que la grande mosquée de Bruxelles est par exemple située à deux pas des institutions européennes. La Commission européenne siège dans un bâtiment qui est situé à 100 mètres de la grande mosquée. Et comme les dirigeants européens n'osent rien dire, premièrement, ils ne connaissent rien à l'islam. Deuxièmement, ils sont indifférents aux religions. Ils se disent, après tout, bon, chrétiens, juifs, musulmans, après tout, nous, ça nous laisse indifférents. Mais justement, non, parce qu'ils ne savent pas que les indifférents, au point de vue religieux, seront les premières cibles des musulmans. Quand les musulmans auront conquis la majorité et seront en mesure d'imposer leurs lois, ce sont les indifférents religieux, les athées, les incroyants qui passeront les premiers à la moulinette. Ce sont eux qui auront le choix entre l'islam ou la mort. Les juifs et les chrétiens, eux, auront un répit, ils pourront conserver leur culte, moyennant certaines restrictions et beaucoup d'humiliation. Mais eux, les incroyants, les athées, n'auront pas le choix.
Mais il y a déjà quelque chose qui existe et qu'on ne veut pas admettre. Les Européens naïfs ne le savent même pas. C'est tout simplement qu'il y a ce qu'on appelle le fiqh, le droit musulman pour minoritaires ici. C'est-à-dire qu'on a fait un droit musulman spécial pour les musulmans qui vivent en Europe, de façon à ce que lentement ils s'habituent. Par exemple, voilà, on dira ils ont droit au prêt à intérêt pour acheter une résidence principale, pour rendre le sol belge ou le sol français de plus en plus musulman. Parce que chaque fois qu'un musulman s'installe, ben c'est vrai qu'il y a une sorte d'islamisation. Et il y a donc un droit musulman particulier pour les minoritaires, pour ceux qui sont en Europe, jusqu'au moment où ben, on rejoindra le droit musulman classique.
toujours à Joanne Bourlard, adressée à Joanne Bourlard, dans l'islam, les viols des femmes blanches sont un rêve et un butin. Pensez-vous que demain, des milliers de femmes européennes seront violées? C'est déjà le cas un peu partout, mais pas généralement encore, à cause de leurs coutumes tenues en croyance. Tenues ou en croyance, pardon.
Excusez-moi, Ismaël, j'ai mal compris la question. J'ai un problème de son. Là, il y a eu quelque chose. Là, j'ai pas eu. Concernant le paradis musulman, vous parliez.
Je vais recommencer. Je vais tout simplement répéter la question. Dans l'islam, les viols des femmes blanches sont un rêve. Et pensez-vous que demain, des milliers de femmes européennes seront violées? C'est déjà le cas un peu partout, mais pas général encore, à cause de leur coutume, tenue ou croyance.
Désolé, je n'entends vraiment pas ce que vous avez dit. Il y a un problème d'interférence avec. Mais enfin, bon, je vais vous dire en deux mots ce que j'ai cru comprendre. Donc, évidemment, les femmes européennes sont de plus en plus nombreuses à tomber dans les bras de musulmans parce qu'elles sont ignorantes de leur culture d'origine. Elles ne savent plus vers où se tourner et donc elles se tournent vers les gens qui sont des clercs, même si elles sont contraires à nos valeurs parfois. Et donc, elles se tournent vers les plus virils, les plus convaincus. Et aujourd'hui, les plus convaincus, ce sont les musulmans, bien sûr.
Oui?
On a eu peut-être des petits problèmes avec Ismaël. Disons que c'était un petit peu plus difficile. Mais je voulais, moi, dans mon cas, revenir un peu sur la question qui avait été posée concernant le Père Samuel pour ce qui est du... C'est quoi, Joanne? C'est le tribunal auquel le Père Samuel va faire face, au juste?
C'est le tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel, c'est plutôt le tribunal des chances des autres, je pense que c'est quoi le terme en particulier?
Non, c'est la justice belge et la partie qui attaque, je vais dire le Père Samuel, la partie civile, c'est okay. Le Centre pour l'égalité des chances. C'est un organisme public.
Le Centre pour la légalité des chances. Comment se fait-il qu'on parle bien sûr dans la préface, vous avez parlé dans son livre, la liberté d'expression sur les droits de l'homme. Je trouve ça assez bizarre, merci, que l'on a décidé de dire le droit des chances. Alors, est-ce que le Père Samuel a pas un droit à ses chances, lui, ou s'il semblerait plutôt devoir être muselé face à ce qu'il a dit?
Ah, je vais avant de lui donner la parole, je dois dire oui. Que tout le monde a le droit de s'exprimer en France ou en Belgique, sauf...
Ça paraît pas comme ça, Madame Delcarte.
Attendez. Sauf ceux qui sont pas du bon bord. Or, être catholique ou être de droite, ceux-là n'ont pas le droit à la parole. C'est très curieux. Il y a une sorte d'indignation sélective, c'est-à-dire le Père Samuel parle, hop, on le censure. S'il y a par exemple Wilders aux Pays-Bas qui parle, hop, c'est un gros salaud, un gros d'extrême droite, on censure. Oui. Mais en revanche, si c'est un imam, un bouddhiste, un shintoïste, un sorcier vaudou, à ceux-là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, danser, sauter, insulter. Vous pouvez avoir, par exemple, un groupe, je ne sais pas, par exemple, de gens sortis de je ne sais quel continent, qui s'amusent à dire on chie sur la France, on chie sur la Belgique, on chie sur le Canada, les filles, n'importe quoi, les choses les plus grosses. C'est pas grave, on insulte, on n'attaque pas en justice. Mais si le Père Samuel dit « Attention, l'islam est un danger », ah, procès en justice. Si, vous voyez, c'est-à-dire si Wilders fait quelque chose, ah, attention, lui c'est un gros salaud d'extrême droite, etc. Si c'est israélien, etc., la même chose, procès en justice. Il n'y a pas d'égalité devant la justice.
Et après ça, ils viennent de s'appeler, c'est la liberté des chances. Ah oui. Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous avez à ajouter à cela, mon père?
J'ai voulu, dans ce livre, montrer les quatre vérités de l'islam. Mais l'islam n'est pas pressé. Tout à l'heure, vous disiez, des terroristes sont ici en Europe. Effectivement, ils sont dans les pays européens, même si les Européens dépensent beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas empêcher les terroristes, parce que les voleurs sont dans les maisons. Je crois que nous devons dire les quatre vérités de l'islam, Et tout à l'heure, quelqu'un disait, est-ce que nos églises, nos cathédrales deviendront des mosquées? Eh bien oui, certainement oui. Je suis absolument convaincu, Notre-Dame de Paris, d'ici 30 ans, 40 ans, c'est une mosquée. Je suis absolument certain. Je signe et j'engage ma signature. Donc l'islam n'est pas pressé. Depuis 14 siècles, il voulait envahir l'Occident. Depuis 14 siècles, par la guerre, par les conquêtes, comme disait Jean Bourla, Rome, Espagne, Italie, eh bien la France, maintenant ils sont là, c'est une chance pour l'islam qu'ils soient ici en Europe. De fil en aiguille, leur but de convertir les Européens, leur but même de terroriser les Européens. On n'ose rien dire maintenant, on n'ose rien dire. Qu'est-ce que j'ai dit finalement? Il y a 6 ans, j'ai dit une phrase, les mosquées sont des nucléaires. Descente absolument nucléaire. J'ai dit, les enfants musulmans bien islamisés, eh bien, seront des bombes à retardement contre les Européens. Et les petits-enfants européens vont être massacrés dans les métros, dans les avions et dans les trains. Voilà ce que j'ai dit. Et je signe et j'engage ma signature.
Et depuis lors, depuis ce que le père a prononcé ces paroles, on a vu par exemple les attentats à Madrid le 11 mars 2004, commis et qui ont grandi en Europe. On a vu les attentats de Londres en juillet 2005, qui ont été perpétrés par des musulmans nés et éduqués en Europe aussi. Et si ça continue comme ça, eh bien nous aurons encore d'autres vagues d'attentats commis par des musulmans nés et éduqués en Europe.
C'est-à-dire, ces propos-là paraissent racistes si on ne connaît pas justement le contenu de l'islam. Le contenu de l'islam, c'est, comment dirais-je, d'imiter le prophète de l'islam qui lui-même, a procédé par ruse. Si on peut se contenter de parler, on se contentera de parler. Mais s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Et c'est l'ignorance du contenu de l'islam qui fait que les gens se disent « Oh, mais comment les propos du Père Samuel ? Mais c'est honteux de dire des propos comme ça !» Parce qu'ils s'imaginent que l'islam, c'est comme le christianisme ou comme le bouddhisme. Mais l'islam, c'est pas comme le christianisme ou comme le bouddhisme. L'islam est une version... Tout à fait. Enfin, l'islam est une religion qui ne repose pas sur les mêmes fondements.
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, Madame Delcamp, parce que pendant ce temps-là, il y a encore une histoire de baignade qui a interdit les non-musulmans et aux femmes tous les dimanches de 8h à 9h30. Ça se passe à Stoke Newton, dans le nord de Londres, exactement. Et voilà, c'est pas du tranquillement, mais sûrement qu'on dit par chez nous.
Oui, c'est ça. C'est une religion qui applique la ségrégation depuis toujours. Il y a les musulmans d'un côté, les non-musulmans de l'autre. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Les maîtres d'un côté, les esclaves de l'autre. Tout fonctionne comme ça en islam. Et d'ailleurs, c'est ce que, dans mon livre sur le djihad qui est sorti dernièrement, je montre l'importance de la guerre, de la violence guerrière et de la terreur comme moyen de persuasion dans l'islam des origines. Parce que, évidemment, la terreur, la violence font partie de toutes les civilisations. On l'a vu partout, ça existe partout. Mais le problème dans l'islam, c'est que c'est inscrit au cœur même de la doctrine de l'islam. C'est inscrit dans les textes sacrés qui sont par définition non modifiables. Donc voilà toute la particularité de l'islam et toute la difficulté pour intégrer l'islam en Occident.
Il y a un seul exemple. Le christianisme dit, si on te frappe la joue, je ne sais plus laquelle.
Sur la joue droite.
Droite, eh bien tu tends la joue gauche. Mais l'islam ne dit pas ça. L'islam pratique la loi du talion. Si on te fait quelque chose, tu réponds exactement de la même manière. C'est-à-dire que le problème de l'amour d'un côté et la violence n'est pas le même. Dieu est amour d'un côté, chez les chrétiens, mais en islam, non. Dieu est amour, ça paraît vraiment débile de dire ça. Dieu est quelqu'un, enfin Dieu n'est pas quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu est transcendant, il n'y a pas question d'amour, pas question de paternité, pas question d'un Dieu qui a un fils, c'est complètement aberrant.
Oui, allez-y, Père Samuel.
Eh bien, je lis ici, si vous me permettez, un morceau dans la biographie de Mahomet, le prophète des Arabes musulmans. La vie du prophète... Presse Université de France, page...
Ah, vous avez, Père Samuel, est-ce que vous avez un appel?
Oui. Le grand historien
oui.
Ben Kaya, mort 690, à propos des musulmans, Allah appela contre nous un royaume barbare, c'est-à-dire les musulmans. Un peuple qui ne savait écouter les supplications ni la paix. La satisfaction des musulmans consistait à verser sans raison le sang et son plaisir à faire main basse sur tout. Sa passion des musulmans était les razzias, l'expatriation, et sa nourriture des musulmans, c'était la haine. Et jusqu'à maintenant, cette haine continue contre les non-musulmans. Absolument, prenez les chrétiens orientaux, presque tous sont balayés par l'islam. Maintenant, c'est l'Orient. Dans quelques années, oui, madame, oui, c'est la dame qui a posé la question. Eh bien, oui, les cathédrales, les églises deviendront certainement des mosquées, non seulement par la paix, mais par la force et par le glaive. Je suis sûr, certain, convaincu. Donc, nous devons vraiment, vraiment être très vigilants, à la rigueur même, comme Mahomet a chassé les chrétiens et les juifs de l'Arabie, nous devons les chasser de l'Occident.
Joanne Bourlard, au niveau du livre que vous avez écrit, Le djihad, les textes fondateurs de l'islam face à la modernité, en page 137, vous dites ici, le dhimmi est un citoyen de seconde zone, pour faire un peu référence à ce que vous avez parlé il y a quelques instants. Si on le tente, d'ordre spirituel, car on garde l'espoir de le convertir, et pour des raisons d'ordre matériel, car on lui impose la presque totalité des charges fiscales, etc., etc. C'est ce qui est en train de se produire tranquillement, juste avec l'exemple de la fameuse piscine, où est-ce qu'on interdit les femmes, on interdit les non-musulmans, etc., mais on garde quand même à l'esprit de pouvoir le convertir. C'est ce qu'ils font constamment, c'est bien cela?
Oui, oui, il y a une volonté de convertir à la religion musulmane, et si pas de convertir, du moins de soumettre. C'est-à-dire, bon, vous restez juif et chrétien, d'accord, mais à condition de reconnaître la supériorité de l'islam et de reconnaître que les musulmans ont plus de droits que les juifs et que les chrétiens. Donc, c'est comme ça, et quelque part, c'est compréhensible dans le sens où les musulmans prennent ces directives comme des directives directement descendues du ciel, directement venues d'Allah. Donc, pour eux, ces directives-là, ces ordres-là ne se discutent pas. On les applique, on obéit, un point, c'est tout. Et en faisant ça, ils imaginent faire acte de foi. Ils imaginent qu'ils obéissent clairement et parfaitement à leur Dieu, Allah, qui le leur a commandé. Voilà. Mais nous, notre rôle, c'est de... Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec la dernière phrase du père concernant le fait de chasser les musulmans. Moi, je dis, il faut parler vrai. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il faut quelque part, de la part des Occidentaux, être fier de ce qu'on est, être fier de son passé, de sa culture et de ses valeurs, et ne pas hésiter à en parler, et ne pas hésiter à dire aux musulmans un peu trop bruyants et un peu trop remuants que s'ils n'aiment pas nos valeurs, s'ils n'aiment pas notre façon de vivre, notre mode de penser, eh bien qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont d'autres cultures, et que s'ils le souhaitent, qu'ils peuvent quitter nos pays et aller s'établir là où ils pourront établir leur religion exact. Pleinement et entièrement. Je vous rappelle qu'il y a quand même 57 pays musulmans dans le monde. Il y a 57 pays qui sont officiellement musulmans, plus d'autres qui ont une grande majorité. Mais je veux dire, 57 pays musulmans dans lesquels il y a suffisamment de place pour s'établir. Donc,
s'il
si
vous
ça ne leur
plaît,
plaît pas
à tour de... S'il vous plaît, à tour de rôle, le mot de la fin. Je commence par Mme Delcamp.
Oui, je voudrais revenir sur les propos du père Samuel. Je pense qu'il a pris un raccourci en disant à ce moment-là, il faut chasser un peu les musulmans des terres d'Europe. Mais il ne faut pas oublier que lui vient de pays orientaux où lui-même a été plus ou moins en tant que chrétien oriental chassé de ces pays. Il vient en Europe en croyant y trouver la paix, la sérénité et, si je puis dire, la chrétienté, le christianisme. Et là, il retrouve un danger, il se dit, mais ça va recommencer le même scénario. Je vais être obligé. Et c'est pour ça que, si vous voulez, dans un raccourci saisissant, il dit, mais ça ne cessera jamais. Moi, j'ai vu comment ça se déroule en Orient, je viens en Occident, je les vois avec un visage angélique qui ne disent pas exactement ce qu'est l'islam. Quand il dit les musulmans doivent être chassés d'Occident, il veut dire l'islam, le contenu, les livres, c'est-à-dire attention, parce que c'est dangereux. Moi, j'ai vu les livres en action du pays d'où je viens dans un autre pays, et mon devoir, c'est d'avertir pays en danger. Sinon, ça serait non-assistance à pays en danger. Et ça aussi, c'est un délit chez nous. Si on voit quelqu'un qui est en danger et qu'on n'avertit pas, on peut être traduit, et le père Samuel, qui est, bon, dont le métier, entre guillemets, est d'avertir, de prêcher, il dit, attention, moi, je connais, je vois les mêmes symptômes. C'est comme, à la limite, quelqu'un qui connaît exactement les symptômes du cancer, il voit le début, il dit, attention, je sais comment ça finit. Alors, s'il vous plaît, je dois vous avertir.
Je vous remercie, Marie d'Alcambre, vous avez bien commenté mes thèmes et mes paroles.
Père Samuel, merci à vous. Et Joanne Bourlard, peut-être un dernier mot de la fin?
Oui, eh bien, oui, c'est exactement ça. En fait, le père a été victime de ségrégation, de discrimination dans son pays d'origine, lui, sa famille et ses ancêtres. Merci. Et donc, il sait à quelle sauce nous allons être mangés si nous nous laissons faire. Et ne pas se laisser faire, c'est quoi? C'est parler, oser dire les choses telles qu'elles sont. Et il n'y a que comme ça que nous pourrons nous en sortir avant qu'il ne soit trop tard.
Je vous remercie à vous trois. On se reparle lundi prochain, même heure, même poste, à la même bas de chaîne, mesdames et messieurs. Merci à Joanne Bourlard, Anne-Marie Delcambre et le père Samuel. Je vous souhaite une excellente fin de journée à vous trois. Au revoir.
Au revoir.